bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, ou en tout cas mieux maintenant que vous avez pu vous rafraîchir un petit peu, et que vous avez, je l'espère, l'esprit vif pour nous plonger dans la parole de Dieu. Jean-Marc l'a dit, nous concluons aujourd'hui notre série dans le livre d'Esther, et nous allons le faire en regardant ensemble ce matin les chapitres 9 et 10. Si vous avez une Bible avec vous, je vous invite déjà à l'ouvrir et à trouver les chapitres 9 et 10. Si vous suivez avec une de ces Bibles que vous trouverez dans les bancs devant vous, on se trouve à la page 348. Esther, chapitre 9 et chapitre 10. Et le titre de ce dernier volet est « Délivrance et fête ». On sait tous que les meilleures histoires se terminent par une fête, Astérix. Et ce qu'on va faire avant de lire ces deux chapitres, si vous le voulez bien, je vais récapituler les événements qui se sont déroulés jusqu'à présent sur les 8 premiers chapitres. C'est important pour comprendre ce qui va se passer maintenant dans ces derniers chapitres. On se trouve environ 5 siècles avant Jésus-Christ, dans ce qui est à l'époque le plus grand empire au monde, l'empire perse, et on se trouve plus précisément dans la capitale à Suse. L'histoire tourne autour de 4 personnages clés. On les connaît bien maintenant. Tout d'abord, il y a le roi de cet empire, le roi Assuérus, ou le roi Xerxès de son nom perse. Il y a Aman, le numéro 2 de l'empire, le premier ministre, un homme très influent. Il y a ensuite Esther, évidemment, une jeune fille juive, orpheline, qui est devenue, contre toute attente et dans des circonstances assez incroyables, qui est devenue la reine du roi Assuérus. Et pour finir, on a Mardochée. Mardochée, un homme juif aussi, le père adoptif d'Esther, qui est au service du roi dans cette capitale à Suse. Au cœur de l'intrigue, on a Aman, qui nous est présenté comme le persécuteur des Juifs, en raison notamment de ses origines. Aman est un Agagite, un descendant d'un peuple qui est historiquement un peuple ennemi des Juifs. Et poussé par sa haine du peuple juif, cet homme, Aman, va ruser pour organiser l'extermination des Juifs qui vivent dispersés à travers ce grand empire perse. Pour cela, il va abuser de la confiance du roi Assuérus pour faire publier un décret qui légalise le meurtre, le massacre des hommes, des femmes et des enfants juifs. Ce décret sera publié dans tout l'Empire et sa date, la date de mise en application du décret, est décidée par tirage au sort, un jet de dés qu'on appelle le pour. Et c'est un détail, mais c'est un détail important pour comprendre ce qui va se dérouler au chapitre 9 et on reviendra sur cette notion du tirage au sort. Et donc la date est ainsi fixée au 13e jour du 12e mois après la signature du décret. Commence alors pour les Juifs un terrible compte à rebours. 12 mois d'attente, 12 mois avant que chaque homme, chaque femme, chaque enfant ne soit tué par le décret du roi du plus puissant empire au monde. Mais par des circonstances exceptionnelles, des circonstances providentielles, Dieu va placer dans l'entourage du roi Assuérus deux personnes, Esther et Mardochée, deux juifs, et il va faire en sorte que ces deux personnes reçoivent la faveur du roi. Esther et Mardochée vont donc travailler ensemble pour exposer le complot d'Aman et convaincre le roi de publier un contre-décret permettant aux Juifs de se défendre contre ceux qui leur voudraient du mal. Et on parlera un peu plus tard des dispositions de ce contre-décret, puisque c'est dans ce chapitre qu'il va être mis en application. Voilà, on va maintenant lire ce chapitre 9 et 10, et j'ai demandé à Charlie, merci à toi Charlie, de nous lire ce texte, il apparaîtra également à l'écran.
Le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, le jour où le message du roi qui avait valeur de loi aurait dû entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Ce fut au tour des Juifs de dominer ceux qui les détestaient. Ils se rassemblèrent dans leurs villes respectives, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour porter la main contre ceux qui leur voulaient du mal. Personne ne leur opposa de résistance, tant les autres peuples avaient peur d'eux. De plus, tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires du roi soutenaient les Juifs, tant ils avaient peur de Mardochée. En effet, celui-ci jouait un rôle important au palais et sa réputation atteignait toutes les provinces, car il exerçait une influence grandissante. Les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, les tuant et les faisant disparaître. Ils traitèrent, selon leur bon plaisir, ceux qui les détestaient. À Suse, la capitale, ils tuèrent et firent disparaître 500 hommes, sans compter Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisai, Aridai et Vajezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amedata, l'adversaire des Juifs. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Le jour même, le nombre de personnes tuées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi, et celui-ci dit à la reine Esther, « À Suse, la capitale, les Juifs ont tué et fait disparaître 500 hommes, sans compter les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste de mes provinces ? Cependant, quel est l'objet de ta demande ? Il te sera accordé. Que désires-tu encore ? Tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Si tu le juges bon, il faudrait autoriser les Juifs de Suse à agir demain encore, conformément à la loi en vigueur, aujourd'hui, et prendre le corps des 10 fils d'Aman à une potence. » Le roi ordonna d'agir de cette manière. Cet édit fut donc proclamé à Suse, et l'on pendit le corps des 10 fils d'Aman. De plus, les Juifs de Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du roi d'Adar et tuèrent 300 hommes à Suse. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Quant au reste des Juifs, ceux qui se trouvaient dans les autres provinces du roi, ils se rassemblèrent pour défendre leur vie et obtenir le repos vis-à-vis de leurs ennemis. Ils tuèrent 75 000 personnes parmi ceux qui les détestaient. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Ils firent cela le 13e jour du mois d'Adar et se reposèrent le 14e. Et ils en firent un jour réservé au banquet et à la joie. De leur côté, les Juifs de Suse s'étaient rassemblés les 13e et 14e jours et se reposèrent le 15e. C'est donc ce jour-là qu'ils réservèrent au banquet et à la joie. Voilà pourquoi, pour les Juifs de la campagne, ceux qui habitent des villes dépourvues de murailles, c'est le 14e jour du mois d'Adar qui est un jour réservé à la joie, au banquet et à la fête où l'on s'envoie des cadeaux les uns aux autres. Mardochée enregistra ces événements par écrit et envoya des lettres à tous les Juifs installés dans toutes les provinces du roi Assuérus, qu'ils soient près ou de loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année les 14e et 15e jours du mois d'Adar. En effet, c'était les jours où les Juifs avaient obtenu le repos vis-à-vis de leurs ennemis, le mois où leur tristesse avait été transformée en joie et leur deuil en fête. Ils devaient donc faire de ces jours des jours réservés au banquet et à la joie, où l'on s'envoie des cadeaux les uns aux autres et où l'on fait des offrandes aux pauvres. Les Juifs s'engagèrent à poursuivre ce qu'ils avaient déjà commencé de faire et ce que Mardochée leur avait prescrit. En effet, Aman, fils d'Amedata, la Gagite, qui était l'adversaire de tous les Juifs, avait projeté de les faire disparaître et il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, en vue de semer le trouble parmi eux et de les faire disparaître. Cependant, Esther s'était présentée devant le roi et celui-ci avait ordonné par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le funeste projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre à une potence ainsi que ses fils. Voilà pourquoi on appela ces jours « Pourim » d'après le mot « pour ». Voilà pourquoi aussi, en s'appuyant sur toutes les instructions de cette lettre, sur ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et sur ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent l'engagement irrévocable pour eux, pour leur descendance et pour tous ceux qui se joindraient à eux, de célébrer ces deux jours en respectant ce qui était prescrit et la date fixée, et ce, chaque année, de garder le souvenir de ces jours et de les célébrer de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et de ne jamais laisser ces jours de Pourim disparaître du milieu des Juifs, ni leurs souvenirs s'effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abishai, et le juif Mardoché écrivirent une seconde fois avec toute l'autorité qui était la leur pour confirmer la lettre relative au Pourim. On envoya des lettres à tous les juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus, porteuses d'un message de paix et de vérité. Elles confirmaient la date fixée pour les jours de Pourim par le juif Mardoché et la reine Esther, mais aussi par les juifs eux-mêmes, pour eux et leurs descendance, et contenait les instructions relatives aux jeûnes et aux cris qui les accompagnaient. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma ces instructions relatives au Pourim, et il fut enregistré par écrit dans un livre. Le roi Assuérus soumit à la corvée aussi bien la partie continentale du pays que les îles. Tout ce qu'il a accompli par sa puissance et sa force, ainsi que les détails sur le rôle important qu'il a accordé à Mardoché, cela est décrit dans les annales des rois des Mèdes et des Perses. En effet, le juif Mardoché était l'adjoint du roi d'Assuérus. Il jouait un rôle important pour les juifs et était très apprécié de ses nombreux frères. Il recherchait le bonheur de son peuple et contribua par ses paroles au bien-être de toute sa lignée.
Merci Charlie. On arrive donc, et vous le voyez, au début de ce chapitre 9, à la fin de la longue et sûrement très angoissante période d'attente pour le peuple juif. C'est le jour où entre en application le décret d'Aman et le contre-décret de Mardoché. On peut imaginer à quel point ce jour-là la tension était vive et palpable. Mais avant de plonger dans l'action, l'auteur a une information importante à nous livrer. Regardez à nouveau le premier verset du chapitre 9, et je lis ici dans la traduction de la Bible du Semeur, je la trouve un peu plus juste, voici ce qu'il est dit. Le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, arriva, c'était le jour où le décret impérial devait être appliqué. En ce jour, les ennemis des Juifs avaient espéré se rendre maîtres d'eux, mais la situation se retourna, ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs ennemis. Mais la situation se retourna. Le mot hébreu dans le texte original communique parfaitement cette idée que la situation a été littéralement inversée, retournée ou renversée. Je ne sais pas s'il y a peut-être ici des fans d'Agatha Christie, mais si vous avez peut-être déjà lu un de ses livres ou vu une de ses adaptations en film, vous allez reconnaître, je pense, ce que l'auteur est en train de faire ici. Quand on lit un Agatha Christie, un roman policier, il se passe en général plein de choses, plein d'événements, impliquant plein de personnages, mais on n'arrive pas à comprendre le sens de ces événements. On ne sait pas comment toutes ces informations sont liées les unes aux autres. Et le mystère perdure un peu, généralement, jusqu'au dernier chapitre du livre, tant qu'on n'a pas eu l'analyse du brillant détective Poirot. Et c'est seulement à ce moment-là que l'auteur nous donne la clé pour tout comprendre, la pièce du puzzle qui manquait, et tout à coup, il y a comme un voile qui se lève, et tout devient un peu plus compréhensible. Et c'est un peu la même chose ici. L'auteur nous livre sa clé, le retournement de situation. C'est comme un coup de coude de l'auteur pour nous dire « Repensez à tous les événements que je viens de vous décrire dans les premiers chapitres. Juste avant le dénouement, voici comment je veux que vous puissiez voir cette série de circonstances et d'événements incroyables qui nous ont menés jusqu'ici. » Et si on fait ça, on découvre quelque chose d'assez incroyable. Regardez à quel point, justement, la situation a été retournée point par point. Chapitre 3, verset 10. Le roi remet son anneau à Aman, symbole du pouvoir que le roi lui accorde. Chapitre 8, verset 2. Le roi remet à Mardoché le même anneau. Chapitre 3, verset 12. Aman convoque les secrétaires impériaux et dicte son décret qui est scellé avec l'anneau du roi. Chapitre 8, versets 9 et 10, Mardoché convoque les mêmes secrétaires et dicte le contre-décret qui est scellé aussi avec l'anneau du roi. Chapitre 3, verset 13, le décret d'Aman stipule que les Juifs, hommes, femmes et enfants, seront tués sur une journée. Chapitre 8, verset 11, le contre-décret stipule que les ennemis des Juifs, hommes, femmes et enfants, seront tués sur une journée. Chapitre 3, verset 14, le décret d'Aman est promulgué publiquement dans toutes les provinces du royaume, chapitre 8, verset 13, même chose pour le décret de Mardoché. chapitre 3, versets 15 et 8, verset 14, les deux décrets, le décret et le contre-décret, partent en toute hâte, les courriers partent pour diffuser les décrets en toute hâte à travers l'Empire. Chapitre 3, verset 15, la ville de Suse est consternée à la nouvelle du décret d'Aman. Chapitre 8, verset 15, la ville de Suse se réjouit suite au décret de Mardoché. Chapitre 4, verset 1, Mardoché déchire ses vêtements et s'enveloppe d'un sac et se couvre de cendres et traverse la ville en poussant des cris amers, en ayant appris le décret d'Aman. Chapitre 8, verset 14, Mardoché porte un vêtement royal et une couronne et reçoit l'honneur de la ville. C'est un retournement de situation intégrale, un revirement jusque dans les moindres détails. Les rôles sont inversés et, point par point, les circonstances défavorables sont transformées en circonstances favorables. Chaque injustice est réparée, chaque tort est redressé. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que l'auteur ici attire notre attention sur ce thème du retournement de situation au début du chapitre 9? Pourquoi est-ce qu'on a aussi tous ces parallèles dans le livre? On ne peut pas dire que c'est un hasard. Tous ces parallèles qui rendent évident ce thème du retournement de circonstances. Premièrement, c'est une occasion à nouveau pour le livre d'insister sur un des thèmes centraux, à savoir la providence de Dieu. On en a déjà beaucoup parlé au cours des dernières semaines, mais on sait que dans ce livre, on voit que derrière toutes les décisions humaines, y compris les décisions des personnes les plus puissantes de cet empire mondial, derrière aussi les événements les plus anodins, le livre d'Esther nous dévoile que c'est en réalité Dieu qui est à la manœuvre. La chance et le hasard n'ont aucune place dans cette histoire. Mais cette insistance sur cette idée du renversement de situation, c'est aussi une façon pour l'auteur de nous dire « Voilà le cadre dans lequel vous devez comprendre le dénouement de l'histoire. Voilà vers quoi l'accumulation d'événements nous mène. » Et je crois que cette fin du livre d'Esther a deux vérités merveilleuses à nous communiquer. Deux vérités, pas simplement au sujet de la fin de l'histoire d'Esther en tant que telle, mais deux vérités aussi au sujet de la grande histoire humaine à laquelle chacun de nous participe. Voici ces deux vérités que je vous propose de découvrir ce matin dans le texte. La justice de Dieu est la source de notre délivrance, et la délivrance de Dieu est la source de notre joie. Commençons avec le premier. La justice de Dieu est la source de notre délivrance. À la suite de ce premier verset, et ici il faut appeler un chat, on a un massacre, une guerre civile. Un conflit dans tout l'Empire, jusque dans la capitale à Suse, qui fait plus de 75 000 morts, d'un côté en tout cas. Et cet événement, et c'est normal, cet événement peut nous choquer. Mais pour comprendre ce qui est en jeu ici, il faut qu'on puisse comprendre et prendre conscience de la réalité et de la gravité de la situation. Le peuple juif faisait face à une tentative de génocide. Il se trouvait dans une situation très, très précaire, en grande infériorité numérique, sans leader politique et dispersé à travers un royaume, un empire immense. Et je crois que ce serait naïf de notre part de croire que la résolution de cette tension, de cet incident, peut se dérouler d'une façon qui est moralement limpide et simple. Du coup, il y a plusieurs choses qu'il faut noter au sujet de cette guerre civile. Premièrement, il faut noter que l'action des Juifs est une action d'autodéfense réciproque. Là où le décret d'Aman prévoyait l'extermination des hommes, des femmes et des enfants et le pillage de leurs biens, le décret de Mardoché est, lui, un reflet exact de ces mêmes conditions, avec une stipulation importante. Les Juifs sont autorisés à attaquer toute bande armée d'un peuple ou d'une province qui les attaquerait. On a donc une action qui est effectivement violente et qui résulte en un nombre important de victimes, mais on a avant tout une action d'autodéfense proportionnée qui reflète le niveau d'agression qui est reçu. Mais il y a un deuxième point, et je pense un point beaucoup plus important à noter au sujet de ce conflit. Le conflit n'a pas été initié par le peuple juif. À aucun moment, le peuple n'a cherché à prendre en main la situation et à essayer d'exercer sa propre justice en devenant à la fois juge et bourreau. Durant les longs mois d'attente qui ont suivi la publication du décret, les Juifs auraient pu comploter, ruser, essayer d'une façon ou d'une autre de passer à l'action pour remédier à leur situation. C'était une réelle tentation pour eux. Prendre l'initiative d'une vengeance, établir leur propre justice selon leurs propres conditions. Mais on voit qu'au contraire, ils font preuve d'une part de beaucoup de patience, 12 mois c'est long, et d'autre part, ils font preuve d'une grande confiance en Dieu. Et c'est peut-être là le point le plus important qu'il faut noter au sujet de ce conflit. Le peuple a attendu que la délivrance vienne par décret du roi. Et la question qu'on doit se poser, c'est de quel roi vient réellement ce décret ? Tout au long du livre d'Esther, on découvre que le roi de cet empire perse, le roi Assuérus, est un roi qui, au fond, ne contrôle pas grand-chose. Il ne contrôle pas grand-chose malgré son statut et malgré sa puissance. On le voit être manipulé et on voit sa puissance être exploitée tour à tour par ses conseillers, par Aman et finalement par Esther et Mardoché. Et en posant au début de ce chapitre le cadre du retournement de situation pour nous montrer à quel point Dieu est maître de chaque détail de cette histoire, l'auteur d'Esther veut aussi nous rappeler que le décret est peut-être physiquement scellé par le sceau du roi des Perses, mais que dans l'absolu, ce décret est ordonné, validé et mis en œuvre par Dieu lui-même. Le retournement de situation, la délivrance, vient donc par décret du roi, mais non pas du roi tout simplement, mais par décret du roi des rois, par Dieu lui-même. Et le peuple juif, je pense, avait compris cette réalité-là. Ils avaient compris que ce contre-décret n'était pas juste une simple affaire d'autodéfense, mais qu'ils étaient appelés, à ce moment particulier de leur histoire, à exercer au nom de Dieu la justice divine. Une justice qui avait pour but, dans ce contexte, deux objectifs. Premièrement, préserver le peuple de Dieu. Un peuple que Dieu a mis à part pour accomplir son plan de rédemption pour toute l'humanité, c'est dire à quel point l'enjeu était important, c'était un enjeu capital. Et deuxième objectif, punir ceux qui se sont révélés être ce jour-là des ennemis de Dieu et contre qui Dieu, en tant qu'auteur de la vie et en tant que Dieu souverain, exerce de plein droit son droit de justice au travers de son peuple. Alors qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Quelles sont les applications, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce début de ce chapitre 9 ? À l'image des Juifs dans Esther, dans notre quotidien, nous avons probablement à faire face à des injustices dans notre travail, dans nos études, peut-être même dans nos familles. C'est peut-être quelqu'un qui répand des accusations mensongères à votre sujet. Vous avez peut-être votre Aman personnel. C'est peut-être des paroles blessantes et cruelles, peut-être une rumeur qui a circulé. C'est peut-être même une décision qui a été prise et qui a été actée et qui vous paraît tellement injuste. C'est peut-être un drame, un accident, une violence même que vous avez subi ou qu'un de vos proches a pu subir. Mais en tant que chrétien, et à la limite, quelle que soit la gravité de l'injustice que nous subissons, cette histoire d'Esther nous pousse à nous interroger. Quelle doit être mon action ? Quelle doit être mon attitude face à l'injustice ? Nous pouvons, et nous devons bien sûr, pouvoir nous tourner vers la justice humaine. La Bible est claire là-dessus. Elle nous dit d'ailleurs que c'est Dieu lui-même qui a nommé les rois et les gouverneurs de ce monde. Et ici, je cite l'apôtre Pierre, Dieu les a nommés pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Mais nous savons aussi que cette justice humaine est imparfaite et qu'elle n'est pas en mesure de faire face à toutes les injustices que nous pouvons subir. Alors on peut avoir cette même tentation. Cette tentation de vouloir prendre les choses en main pour établir notre propre justice. On peut même parfois vouloir chercher une forme de vengeance ou espérer une rétribution. Et je pense que la grande leçon pour nous, en ce début du 9e chapitre d'Esther, c'est que, à l'image des Juifs de Perse, nous devons savoir attendre la justice du roi. On doit attendre que le retournement de situation, que la délivrance, vienne par décret du roi. Mais pour attendre, on doit aussi être conscient que pour nous, aujourd'hui, cette justice viendra sous une forme qui sera bien différente de celle que nous venons de voir dans Esther. Dans Esther, cette délivrance était politique et violente. Et surtout, elle était décrétée par Dieu, mais mise en œuvre exécuté par son peuple qui était ce jour-là l'instrument de la justice divine. Et alors qu'on revisite aujourd'hui en 2019 cette histoire d'Esther, on doit reconnaître qu'Esther nous relate une époque particulière de l'histoire biblique. Cette époque couvre une grande partie de l'Ancien Testament et c'est une époque durant laquelle Dieu était le souverain direct qui exerçait son règne sur la nation d'Israël, c'est-à-dire sur un peuple qui avait une identité politique et ethnique. Mais voici ce qui change fondamentalement pour nous aujourd'hui. Et je lis ici dans Jean, chapitre 18, verset 36, c'est Jésus qui nous parle et qui nous dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non réellement, mon royaume n'est pas d'ici. » Qu'est-ce qu'on apprend dans ce verset ? Depuis la venue de Jésus, Dieu n'agit plus dans notre monde en tant que roi qui gouverne directement un peuple rassemblé dans un État avec une identité politique et ethnique. Il nous dit maintenant que son royaume n'est pas de ce monde et que nous avons donc à explicitement renoncer à la violence et à la force pour établir, préserver ou défendre ce royaume. Autrement dit, dans sa forme, la délivrance violente qui est relatée dans Esther ne serait plus possible aujourd'hui. Nous ne serons jamais appelés aux armes pour défendre notre patrie céleste parce que notre bataille est maintenant spirituelle. Et si nous appartenons à ce royaume qui n'est pas de ce monde, la Bible nous dit que nous devons non seulement renoncer à l'usage de la force et de la violence, mais que nous devons aussi être prêts à supporter des souffrances et des injustices pour la cause de ce royaume. Je lis ici dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Pierre nous dit « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. » C'est un sacré challenge qui nous est lancé là. Comment faire alors pour supporter ces souffrances et ces injustices ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit abandonner tout espoir de justice ? Un des grands obstacles, je pense, qui nous empêche de pouvoir nous détacher de l'injustice et des souffrances que nous pouvons subir, c'est que nous sommes persuadés, et à juste titre, que justice doit être rendue. C'est un obstacle réel qui nous empêche d'avancer, c'est un obstacle qui nous empêche de pardonner, et c'est un obstacle qui nous amène parfois même à être profondément rancuniers et amers. Et on a le sentiment, au fond, que si on devait juste lâcher prise et oublier, on serait en même temps obligé de renoncer à toute justice. Alors du coup, on s'accroche à notre colère, on se rend misérable et la rancœur et l'amertume prennent racine dans notre cœur. Écoutez ce que l'apôtre Paul a à nous dire à ce sujet. Dans Romains, chapitre 12, verset 21, « Mes amis, nous dit Paul, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Paul nous encourage ici à déposer le fardeau de notre colère aux pieds de Dieu, d'arrêter de ruminer sur nos sentiments d'injustice, non pas parce qu'aucun mal n'a été fait, le mal a été fait, l'injustice a été subie, mais il nous encourage à déposer ces fardeaux d'injustice parce que quand on les laisse aux pieds de Dieu, Dieu les ramasse pour nous et il nous assure que justice sera faite. Mais on doit faire attention. Faire ça, ce n'est pas un moyen subtil de déléguer à Dieu notre sentiment ou notre envie de vengeance. Dieu n'est pas notre vengeur personnel masqué. On doit au contraire remettre notre besoin de justice à Dieu avec l'assurance que Dieu est le seul qui est capable de prononcer une sentence qui sera parfaitement juste, parfaitement vraie et parfaitement sainte. Mais quel soulagement pour nous, quelle libération de pouvoir déposer ces fardeaux d'injustice et de ne plus avoir à porter ce fardeau-là. Et si nous faisons cela, on sera libre de vivre de vivre patiemment, de vivre fidèlement, en attendant que la justice et la délivrance viennent du roi des rois. Et l'assurance que cette délivrance et cette justice viendra un jour, pour nous, c'est aussi une source de réconfort et une source de grande joie, et c'est notre deuxième point pour ce matin. La délivrance de Dieu est la source de notre joie. Souvenez-vous que l'auteur d'Esther, au début de ce chapitre, veut attirer notre attention sur ce thème du renversement de situation. Et la deuxième raison pour laquelle il fait ça, c'est pour nous aider à comprendre l'origine de la joie des Juifs et le sens de cette fête des Pourim qui est instituée. Et je lis ici à partir du verset 21 de ce chapitre 9. Mardoché leur demanda de célébrer tous les ans une fête, le 14e et le 15e jour du mois d'Adar, puisque en ces jours, les Juifs s'étaient assurés la tranquillité vis-à-vis de leurs ennemis et qu'en ce mois, leur affliction avait été changée en joie et leur deuil en fête. Regardez ici comment à nouveau on retrouve le langage du retournement de situation, du renversement des circonstances. Leur affliction avait été changée en joie et leur deuil en fête. Et pour comprendre le sens de cette fête, il ne faut pas chercher bien plus loin. C'est tout simplement de la joie. La joie spontanée de celui qui constate qu'il est encore debout, de celui qui constate qu'il est encore vivant, le jour après la mise en œuvre d'un décret de mort irrévocable. C'est la joie de constater que ce décret de mort a été transformé en décret de vie. La fête ne célèbre pas la bataille en tant que telle, il n'y a pas ici une joie malveillante à l'égard du sort des ennemis des Juifs, c'est un sort qui est juste mais quand même profondément triste. Non, ce qui est fêté, c'est justement le retournement, le renversement des circonstances. L'auteur prend aussi le temps au verset, au verset 24, 25 et 26 de nous expliquer l'origine du nom de la fête des Pourim. C'est un nom qui est dérivé du mot « pour », un mot qui désigne en perse le sort ou le dé qu'Aman a jeté pour déterminer le jour de la sentence de mort des Juifs. Et donc c'est un nom qui est plein d'humour. Un jeu de mots en quelque sorte pour faire allusion au fait que le sort d'Aman, le tirage au sort d'Aman, ne pouvait pas déterminer le sort ou la destinée du peuple de Dieu. On a de la chance, le jeu de mots marche aussi pas mal en français. Le tirage au sort ne pouvait pas fixer le sort du peuple. Et donc on a là encore une très belle référence à la providence et à la fidélité de Dieu. Ce qui est fêté dans cette fête des sorts, dans cette fête des Pourim, c'est l'assurance que ce monde n'est pas gouverné par le hasard. Alors nous, aujourd'hui, on n'est pas appelé à célébrer cette fête en tant que telle. Mais on peut quand même partager cette joie qui était celle des Juifs ce jour-là. On l'a dit tout à l'heure, dans notre vie chrétienne, on sera appelé à faire face à des circonstances difficiles, des souffrances, des injustices. Et je pense qu'une des leçons qu'on doit retenir de l'esprit de cette fête, c'est que nous devons apprendre à ne pas faire reposer notre joie et notre bonheur sur les circonstances de notre vie. La Bible nous encourage et nous demande même, au contraire, d'apprendre à trouver notre joie et notre bonheur dans ce que j'ai appelé nos circonstances éternelles. D'où viennent ces circonstances ? Elles sont la conséquence du plus grand retournement de situation de l'histoire humaine. Un bouleversement qui a eu lieu il y a 2000 ans et qui avait pour objectif d'assurer notre délivrance éternelle. Et le tournant décisif de ce renversement a pris place à la croix de Jésus-Christ. Contre toute attente, Jésus a pris la mort qui était la nôtre, pour que nous puissions avoir la vie qui est la sienne. Le décret de mort est annulé par un contre-décret de vie. Et pour nous qui reconnaissons Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, on a vu, et ici beaucoup de gens pourront en témoigner, on a vu les circonstances de notre vie être renversées pour l'éternité et pour le mieux. Ce sont des circonstances qu'aucun roi, qu'aucun décret, qu'aucun événement, qu'aucune part de chance ne pourra jamais changer. Quelles sont ces circonstances éternelles ? Honnêtement, la Bible en est pleine à craquer. Mais en voici quelques-unes, simplement, pour nous encourager ce matin. Elles sont toutes tirées du chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains. Au premier verset, « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », une circonstance éternelle. En Christ, nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort. Versets 15 et 17, Nous sommes enfants de Dieu, adoptés du Père, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Circonstance éternelle. Versets 35 et 39, rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Voilà nos circonstances éternelles, quelques-unes de nos circonstances éternelles. C'est l'ultime délivrance, une source de joie éternelle. Notre responsabilité, c'est que nous devons apprendre à faire reposer notre joie et notre bonheur au quotidien sur ces circonstances éternelles, sur ces réalités éternelles. Et parfois, c'est difficile. On laisse nos cœurs être envahis par nos difficultés, par nos peurs, par notre mauvaise humeur, tout simplement, par nos rancœurs. Mais toutes ces choses-là peuvent être déposées et remises à Dieu. Et c'est une vraie bataille pour la joie que nous devons livrer. Une bataille entre nos soucis quotidiens et nos circonstances éternelles. Nous pouvons bien sûr demander dans la prière de l'aide à Dieu pour qu'il fixe nos pensées sur la joie de ces circonstances éternelles. Mais il ne va pas non plus faire le boulot à notre place. Notre responsabilité, c'est de nous approprier ces réalités et ces promesses en lisant et en mémorisant ce que nous pouvons trouver dans la Bible, pour que nous puissions avoir cette capacité de nous en souvenir au quotidien. Pour conclure, le titre général que nous avons donné à cette série, c'était « Dieu brille par sa présence malgré son absence ». Et c'est le grand paradoxe d'Esther, le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'est pas mentionné et où les personnages semblent évoluer dans un monde dans lequel Dieu est absent. Et c'est un monde qui ressemble étrangement au nôtre, au fond. Et à l'image des Juifs dispersés dans l'Empire perse, nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu en exil et nous attendons de rejoindre notre patrie céleste. Et comme Esther et Mardoché, nous devons faire face à ce monde qui est complexe et qui est parfois hostile envers nos convictions chrétiennes. Et peut-être que vous êtes ici ce matin dans une situation personnelle où les circonstances de votre vie, où l'injustice, où les souffrances que vous subissez vous font croire que Dieu est effectivement absent et que tout espoir de délivrance est impossible. Si vous êtes dans ce cas-là aujourd'hui, je vous encourage à voir dans ce livre d'Esther un formidable témoignage de la fidélité de Dieu, y compris dans les circonstances les plus désespérées. Je vous encourage à y voir aussi la preuve que si nous espérons en la justice de Dieu, notre espérance ne sera pas vaine. Peut-être que vous êtes ici dans une situation où vous avez peur de perdre cette bataille pour la joie dans votre vie, justement parce que Dieu semble loin et que ses promesses semblent stériles. Si c'est le cas, je vous encourage à simplement ouvrir votre Bible et à remplir vos pensées quotidiennement de toutes ces circonstances éternelles qu'on peut y trouver. Des réalités et des promesses merveilleuses qui sont ancrées dans l'œuvre de Christ à la croix. Et pourquoi pas commencer par celle-ci, et ce sera notre verset de conclusion ce matin, un verset qui nous rappelle que si Dieu semble loin aujourd'hui, un jour, il habitera avec nous. Voici ce verset, ou ces quelques versets. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen.